France Info. 21h-22h, tout est politique, Jean-François Aquili.
Bonsoir, Macron et Trump, main dans la main à Washington. Les contribuables, sollicités pour éponger la dette de la SNCF ou encore la suite de la controverse autour de la tribune de Philippe Val sur l'antisémitisme. On en parle ce soir dans tout est politique sur France Info jusqu'à 22h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT avec nos invités. Bonsoir à vous, Olga Givernet.
Bonsoir.
Vous êtes députée La République En Marche de l'Ain et conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai tout juste ?
Tout juste.
Parfait. Bonsoir à vous et bienvenue Sébastien Chenu.
Bonsoir.
Porte-parole du Front National et vous êtes députée du Nord. Avec nous également Rachid Temal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur PS du Val-d'Oise et vice-président du groupe socialiste au Sénat. À nos côtés également, Christophe Madrol, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, secrétaire général de l'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes, vous êtes conseiller municipal de Marseille et vous nous l'annoncez ce soir, je crois que savoir que vous êtes candidat aux élections municipales marseillaises.
En effet, j'ai annoncé dans la presse locale que je brillais le poste de maire de Marseille pour les élections de 2020.
Allez, c'est courageux. Vos réactions sur Twitter, hashtag TEP. L'entente cordiale, voire plus, à Washington, Emmanuel Macron et Donald Trump, qui n'ont pas cessé d'échanger des bisous, il faut le dire, ont donné une conférence de presse commune pour annoncer un nouvel accord nucléaire iranien.
Vous considérez que le deal iranien, le JCPOA, donc l'accord qui a été négocié en 2015 avec l'Iran, est un mauvais accord. Depuis plusieurs mois, je dis que ça n'est pas un accord suffisant, mais qu'il nous permet en tout cas d'avoir jusqu'en 2025 un contrôle sur les activités nucléaires. Nous souhaitons donc pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord avec l'Iran.
Rachid Temal, le précédent accord était donc mauvais et c'est reparti pour un tour dans la région.
Là, on voit la limite de l'exercice. Je veux dire, quand le président Trump est invité en France, quelques semaines après, quelques jours après, il se retirait de l'accord de Paris sur le climat. Et donc nous pensions là que la venue du président Macron aux États-Unis permettrait de faire avancer sur le climat. Non seulement il n'y a pas d'avancée sur le climat, mais en plus, on est en train de détricoter l'accord sur le nucléaire iranien. Je ne dis pas que c'est un bon accord, je dis que c'est un accord qui permettait au moins d'avancer. Là, cette décision ouvre une nouvelle période, on va dire, d'insécurité, d'interrogation au Moyen-Orient. Quand on sait qu'il faut lier cette crise-là à la crise syrienne, je ne crois pas que ce soit une bonne chose de ce qui est annoncé ce soir par le président français, le président américain.
Olga Givernet de La République En Marche, est une période d'incertitude qui s'ouvre désormais, comme le dit Rachid Temal, dans la zone.
Alors je pense qu'on a besoin de travailler rapidement effectivement sur ce nouvel accord. Nous avions fait au niveau des parlementaires une tribune qui permettait d'appuyer le fait qu'il fallait avoir un accord. On ne pouvait pas se permettre d'avoir les États-Unis en dehors de cet accord. Donc si la nécessité c'est de pouvoir
retravailler... Donc c'est eux qui décident en fait.
Non, sont eux qui décident. Non, c'est une discussion qui doit pouvoir se faire. Et s'il y a des avancées qui peuvent être faites, comme a pu le dire Emmanuel Macron, nous devons y réfléchir, oui.
Qu'est-ce que vous pensez peut-être là-dessus, Sébastien Chenu ? Est-ce que vous pensez que la France est en pointe désormais dans la diplomatie Moyen-Orient sur cet accord ?
D'abord, quelque chose sur la forme, c'est que Donald Trump redevient, grâce à l'onction présidentielle via la presse, redevient fréquentable. C'est amusant d'ailleurs de voir comme le président Trump reprend de la couleur à partir du moment où Emmanuel Macron lui adresse la parole dans les médias français. Il était infréquentable à partir du moment où Emmanuel Macron le fréquente.
Il était venu le 14 juillet redevient... déjà.
Oui, non, mais je me souviens de ce que les médias disaient du président Trump il y a quelques temps. Il n'avait pas de mots assez durs le concernant. Puisqu'il parle à Emmanuel Macron, puisqu'Emmanuel Macron lui parle, et c'est tout à fait normal, il reprend des couleurs. Ça, c'est sur la forme. On voit que Emmanuel Macron, finalement, guérit quasiment par l'imposition des mains à les relations diplomatiques. Sur le fond, il y a un alignement. Et moi j'en suis désolé d'Emmanuel Macron sur les positions de Donald Trump en ce qui concerne ce dossier. Il ne l'a pas fait évoluer. Il s'aligne benoîtement. Donald Trump a eu des mots très durs concernant cet accord, publiquement, qui ont mis même mal à l'aise physiquement le président français, et on ne peut pas s'en satisfaire pour notre pays. On a l'impression quand même d'un président français suiviste, suiveur, soumis. Comme il est un peu à l'Union européenne, finalement, il adopte des postures de soumission qui ne sont pas vraiment glorieuses pour le président de notre pays.
Pourtant, Emmanuel Macron a dit bloquer toute activité nucléaire de l'Iran jusqu'en 2025, stopper le développement de leur capacité balistique, mieux contenir la domination en Irak. Christophe Madrol, vous pensez que nous sommes en retrait désormais sur la zone ?
Cette visite me laisse un peu dubitatif, pour tout vous dire. C'est vrai que je m'attendais à qu'il y ait des prises de position fortes sur l'accord de Paris. Nous avons porté l'accord de Paris après la COP21 et nous étions tous unanimement d'accord que le retrait et les prises de position de Trump étaient dommageables pour la planète entièrement. J'aurais aimé qu'Emmanuel Macron puisse pointer le désaccord fort qu'il avait avec Donald Trump. Mais à partir de là, je crois qu'ils font preuve d'une diplomatie assez particulière. Tous les deux jouent les gros bras. J'ai l'impression d'être dans un western où ils rentrent dans un bar, ils montrent leurs muscles et à qui a les plus gros muscles. On a vu les images.
Vous voulez dire quoi, l'un contre l'autre
vous voyez, l'image, les images quand même qui sont passées sur toutes les chaînes. Vous allez voir les images Donald Trump nettoie le costume d'Emmanuel Macron. Il y a des images qui sont assez choquantes. Emmanuel Macron représente la France et quand effectivement Donald Trump qu'on a critiqué et je l'ai dit sur ce plateau, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé Donald Trump par rapport à qui il est, qu'on voit comment il se conduit avec notre président, c'est quand même assez dommageable pour la diplomatie française.
Olga Givernet, vous contestez ce que dit Christophe Madrol ?
Oui, je pense qu'en fait, si on tourne le dos à la classe dirigeante d'un pays, on tourne le dos à tout un pays, à toute une population, on tourne le dos à tout un historique, et donc il y a une nécessité de pouvoir continuer
de discuter ensemble,
et de pouvoir trouver des accords pour avancer sur les
aspects diplomatiques.
Je voudrais juste terminer. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a reçu en visite d'État. C'est quand même le plus haut au niveau du protocole. Il y a une reconnaissance de la part des États-Unis sur l'aspect de la puissance mondiale que peut être la France aujourd'hui. Et je pense que la population en France reconnaît également l'action à l'international d'Emmanuel Macron.
Ces propos, permettez, chers collègues, sont d'une banalité affligeante. Il est normal d'avoir des relations avec les États-Unis. Il est normal d'être reçu au plus haut niveau lorsque c'est une visite d'État. Enfin, je veux dire, tout ça est normal. Il y a eu des précédents. Il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ça. Il est normal d'entretenir un dialogue. Mais ce qui serait normal, c'est d'avoir une position sur laquelle on puisse faire bouger le président Trump, c'est-à-dire montrer que la France est capable d'influencer le président Trump. Je ne vois pas ça dans la besace d'Emmanuel Macron, climat, ni sur la Syrie, ni sur l'Iran. Il repart en bredouille.
On va poursuivre dans un instant, mais messieurs, dames, on va entendre aussi Rachid Temal qui demande la parole. Mais tout de suite, 21h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Laurent Sénéchal.
Depuis Washington, Emmanuel Macron estime qu'il faut négocier un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Il prône en attendant le maintien de l'accord actuel négocié par Barack Obama en 2015. Mais le président veut aussi stopper les activités balistiques iraniennes et contenir l'activité de Téhéran chez ses voisins. Le milliardaire Vincent Bolloré toujours en garde à vue. Les enquêteurs soupçonnent le groupe Bolloré d'avoir obtenu la gestion des ports en Guinée et au Togo en aidant des hommes politiques à accéder au pouvoir grâce à sa filiale de communication Havas. Les syndicats de la SNCF invités à Matignon le 7 mai prochain pour des discussions bilatérales. Ils estiment que c'est un recul du gouvernement à mettre au crédit, selon eux, de leur mouvement. Ils vont en revanche boycotter les réunions avec la ministre Elisabeth Borne. Par ailleurs, Édouard Philippe a estimé tout à l'heure que la reprise d'une partie de la dette par l'État nécessitera un effort des contribuables. Jawad Ben Daoud sera présenté au parquet demain en vue d'une comparution immédiate. Il est accusé de menace de mort par son ex-compagne. Jawad Ben Daoud est surnommé le logeur de Daesh pour avoir loué à des terroristes du 13 novembre un squat à Saint-Denis. Il a été relaxé dans cette affaire en février. Son procès en appel se tiendra fin novembre. La mort d'une légende du football, Henri Michel, avait 70 ans, ancien milieu de terrain des Canaries nantais, avec qui il a remporté 3 championnats et une Coupe de France. En tant que sélectionneur des Bleus, Henri Michel compte une 3e place au Mondial de 86.
France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Rachid Temal, vous faites des bons depuis tout à l'heure.
Non mais moi j'entends ce que dit notre collègue, la plus qu'en marque, elle essaye de défendre le président de la République.
Elle est seule contre 3 sur ce plateau.
Elle porte sa position et elle a le droit et je l'en félicite. Si on prend sereinement les choses, l'accord sur le climat, je crois que le ministre d'État n'était pas là. Nicolas Hulot
absent.
Est absent. Peut-être que déjà c'était un premier signe. On nous avait annoncé que le président de la République allait, avait fait un grand appel, vous souvenez-vous, à Paris, pour faire venir, etc.
Le absent climat. Pourquoi, selon vous?
Bon, en tout cas, il n'a pas pu s'exprimer, ou en tout cas, il n'y a pas la volonté peut-être du président de la République d'assumer le fait que finalement, les États-Unis lui disent niet sur la question du climat. Sur la question du nucléaire iranien. Tout ça est très sympa, hein. Mais le président américain annoncera le 12 mai sa décision. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accord qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a permis quand même de mettre une forme de stabilité sur la zone, et notamment de limiter la question de la prolifération nucléaire. Là, on ouvre la boîte de Pandore. Là, concrètement, les États-Unis vont dire « ça nous convient pas », les Français disent « on veut nous un nouvel accord, mais entre-temps, on maintient l'accord », et les Iraniens vont bouger ainsi que les autres. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Une forme de désordre. Donc c'est extrêmement inquiétant ce qui est en train de se passer. Sur la Syrie, il y a eu les frappes. Pas un mot sur la conférence internationale nécessaire. Aujourd'hui, il y a près de 500 000 morts chez les Syriens et les Kurdes. Donc voilà, c'est trois dossiers sur lesquels moi je veux bien une visite d'État, et c'est normal que la France soit reçue ainsi. C'est un grand pays et on peut tous s'en féliciter. Mais à la fin, il faut des résultats, c'est ce que demandent les Français et les Français, alors, sur la scène internationale notamment.
Vous allez poursuivre les uns et les autres sur ce sujet. Juste, Macron et Trump, pourquoi s'entendent-ils à ce point? Donald Trump a donné son explication cash comme à son habitude.
Je pense pour ma part que nous avons en fait beaucoup de choses en commun, je puis le dire, car en fait, nombre des dossiers, nous sommes tombés d'accord, nous pouvons changer, nous pouvons être souples. Dans la vie, il faut faire preuve de souplesse. Et en tant que dirigeant de pays, il faut faire preuve de souplesse. Et je pense en fait que nous sommes d'accord sur nombre des dossiers dont nous avons discuté aujourd'hui. Je dois dire que la France est un très grand pays et je crois que la France va faire de très grandes choses grâce à ce président. Vous êtes un président extraordinaire, un de vos très grands présidents, et je suis très honoré de pouvoir vous appeler mon ami. Je vous remercie.
Sébastien Chenu, c'est pas mal plutôt d'être estampillé par Donald Trump ainsi.
C'est vraiment un enterrement de première classe. Hein. Ah là, je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Ça montre bien que Donald Trump est très content pour livrer autant de compliments à Emmanuel Macron.
C'est
qu'il
comprend qu'il a... Comment ? Il est habile ou pas ?
Il est très habile. On voit bien que ce qui a été planté aujourd'hui, c'est l'accord et l'arbre. Il y a deux choses qui ont été plantées, un arbre et un accord. Au-delà de ça, rien n'est sorti. C'est très léger, si vous voulez. Qu'Emmanuel Macron fasse le déplacement aux États-Unis pour revenir avec rien, parce que la réalité, c'est qu'il revient bredouille, avec simplement les compliments du président américain, bah, ça ne va pas solutionner grand-chose. Donc effectivement, on l'a dit, sur la Syrie, il n'a pas fait bouger Trump, sur l'Iran, il ne l'a pas fait bouger, sur l'accord climat, il ne l'a pas fait bouger, tout ça est très léger, on voit les limites d'Emmanuel Macron.
Olga Givernet, bredouille Emmanuel Macron.
Je ne crois pas, non, je pense qu'on se souvient quand même d'un Donald Trump qui venait d'être élu et où on avait l'impression que c'était une personne qui était prête à appuyer sur le bouton au moindre problème. Aujourd'hui, on a pu voir qu'en Syrie, il y a eu une coordination qui s'est fait avec des frappes qui sont ciblées, qui ont été pertinentes, qui ont été complètes. Je pense que le travail qui est fait aujourd'hui de diplomatie entre Emmanuel Macron et Donald Trump est nécessaire. Nous avons besoin d'une classe dirigeante mondiale qui soit à la hauteur et à la hauteur des défis que nous avons, que ce soit en termes de conflits, mais aussi de problèmes sur le climat.
Quoi,
et aujourd'hui, je pense que c'est une avancée sur le fait qu'on a pu sceller une entente entre nos deux pays qui sont
alliés. Depuis des siècles, l'entente entre nos deux pays, cher madame.
Ce qui est gênant, j'entends ce que vous dites, et je ne remets pas en cause la visite d'État de la France aux États-Unis.
Ce qui
est normal, on ne met pas en cause. Mais là, honnêtement, on voit très bien que le travail diplomatique fait par Emmanuel Macron ne porte pas ses fruits. On connaît Donald Trump, on sait très bien que le 12 mai, il annoncera ce qu'il voudra, et de toute manière, on sera simplement des suivistes par rapport à la décision de Donald Trump. Le positionnement d'Emmanuel Macron, qui a été plutôt courageux le 14 juillet. Vous voyez, je suis assez d'accord avec vous. Mais là, vu les images qu'il y a, on ne sait pas du tout où il va. Il n'y a strictement aucun résultat. Et je vous le dis, il y aurait eu le moindre résultat sur l'accord climat, je serais avec vous pour soutenir la position d'Emmanuel Macron. C'est vraiment l'enjeu. On sait très bien que les États-Unis se désengageant de ce débat, de l'accord de Paris, ça provoque dans le monde entier un cataclysme lié au climat.
Pour vous, c'est
climat.
Un sujet majeur, bien sûr. Christophe Madrol, l'absence de cette discussion autour du climat. Rachid Temal,
bien sûr. Bah, on voit bien aujourd'hui, on n'a qu'une seule planète. Et d'ailleurs, ça a été fait avec François Hollande et le président Macron avait rappelé la nécessité d'un accord, il n'y avait qu'une seule planète, il y a aujourd'hui des migrants climatiques, etc. Il y a des enjeux majeurs. Et on sait bien que cet accord-là était nécessaire, a été souhaité par l'ensemble des pays. et des, notamment des États qui sont à deux doigts, je pense à certains pays, de passer sous le niveau de la mer. On voit ce, quoi, de ce dont on parle aujourd'hui. Et là, rien. Les États-Unis d'Amérique ont dit non merci le 14 juillet et aujourd'hui à nouveau. Enfin, pire encore, si je peux me permettre, n'ont même pas essayé aujourd'hui de porter cette voix-là. Si Nicolas Hulot était venu, il aurait pu être aux États-Unis.
Pas invité.
Le président aurait pu l'inviter. Il serait venu aux États-Unis, il aurait fait part de sa personnalité, de sa capacité de convaincre, de son histoire, de son vécu, de son expérience. Là,
Olga
Gibarnier, rien.
C'est pas faux.
Rien.
Il y a probablement une décision qui a été prise sur la question de l'affichage. Je pense que le sujet n'est bien évidemment pas enterré.
Parce que vous avez Jean-Michel Blanquer qui est du voyage, mais les questions d'éducation entre les pays, c'est peut-être pas forcément une priorité. Enfin, voilà.
Parler anglais au collège, c'est important, mais c'est pas le sujet.
Oui, et puis les échanges qui sont faits sur l'anglais, c'est la francophonie.
Je note qu'Olga Givernet nous indique qu'il y a eu un arbitrage qui a été fait de ne pas emmener Nicolas Hulot, c'est-à-dire donc de renoncer d'emblée à parler d'un accord ou de parler du climat. C'est intéressant ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'avant même de partir aux États-Unis, le président Macron avait décidé de ne pas ouvrir ce dossier-là. Je trouve que c'est inquiétant. Et moi, je me serais réjoui que, effectivement, la France puisse revenir avec quelques décisions, parce que c'est pour notre pays. Vous disiez, il y a des accords entre les États-Unis et la France. Oui, on le sait depuis plusieurs siècles. Mais à quoi doivent-ils servir, chers collègues? À quoi ça doit servir de se rencontrer et d'aller se voir et d'aller voir le président Macron? C'est une question, et d'ailleurs le président Trump, c'est une question que je vous pose. À quoi cela aurait-il dû servir, vous concernant? Vous en attendiez quoi? Parce que moi, je sais très bien ce qu'on en attendait. Mais vous en attendez quoi?
Allez, une dernière interpellation et vous aurez le mot de la fin sur ce dossier, Olga Givernet.
C'est très bien de s'aimer, mais...
Il est important pour nous d'avoir un timing et effectivement de penser qu'il n'y a pas eu d'arbitrage sur le déplacement. C'est une visite officielle. Bien sûr qu'il y a eu des personnes qui ont été choisies pour représenter ce que nous voulions représenter en termes d'affichage.
Donc, pas l'écologie.
Il y a une représentation, mais qui n'est pas incarnée par Nicolas Hulot. Moi, je pense qu'il y a eu une décision qui a été prise à ce niveau-là et parce que dans la méthodologie d'Emmanuel Macron et de ce qu'on a pu porter au niveau de la campagne, il y a une question de calendrier, de maîtrise du calendrier sur les sujets. Et donc, effectivement, d'être cohérent par rapport à ce calendrier et l'affichage qui est fait sur les sujets.
Quel sujet?
L'Iran a été abordé et il a abordé.
La visite d'Emmanuel Macron n'est pas achevée. Nous aurons le loisir d'y revenir. Il y aura une décantation rapide là-dessus. On pourrait passer une heure, mais bon, je crois qu'on n'aura pas les réponses. 21h20 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Laurent Sénéchal.
Il faut un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Déclaration d'Emmanuel Macron après un tête-à-tête avec Donald Trump, le président américain à Washington. Emmanuel Macron défend l'accord actuel obtenu par Barack Obama en 2015, mais il veut lancer des négociations sur le programme balistique iranien et sur le rôle joué par Téhéran chez ses voisins. Les policiers anticorruption entendent toujours Vincent Bolloré. L'homme d'affaires est en garde à vue depuis ce matin. Les enquêteurs soupçonnent son groupe d'avoir aidé des hommes politiques africains en échange de la gestion de ports en Guinée et au Togo. L'entreprise dément toute irrégularité. Deux morts après le passage de la tempête tropicale Fakir à La Réunion. Une coulée de boue a surpris un couple dans son sommeil à l'étang Salé dans le sud-ouest de l'île. La tempête s'est maintenant éloignée. 42 000 foyers étaient encore privés d'électricité en début d'après-midi. Les salariés d'Air France seront consultés à partir de jeudi et jusqu'au 4 mai sur le mouvement en cours. Le PDG a mis son poste dans la balance. C'est un chantage à la démission, dénoncent les syndicats. La grève s'est poursuivie aujourd'hui. Elle vise à obtenir une augmentation de salaire de 5%. La direction propose 2% tout de suite, puis 5% étalé sur 3 ans. La préfète de Loire-Atlantique salue un grand pas en avant. Des zadistes de Notre-Dame-des-Landes ont déposé 41 dossiers individuels pour régulariser leur situation. Après l'abandon du projet d'aéroport, ils ont continué d'occuper les terres agricoles qu'ils veulent gérer collectivement. Édouard Philippe, le Premier ministre, fait le point demain avec la préfète à Matignon.
France Info. 21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
L'information est tombée ce soir sur France Info. D'ailleurs, aucun des 4 syndicats de la SNCF ne se rendra à l'ultime réunion de concertation prévue par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Les syndicats n'iront pas plus à la réunion du 3 mai sur le fret. Et ils iront bien tout de même le 7 mai à Matignon, discuter avec Édouard Philippe, le Premier ministre, qui leur a écrit au 10e jour de la grève à la SNCF. Il leur a adressé un courrier à l'intersyndicale demandant, les appelant à un effort de productivité pour assurer la pérennité de l'entreprise. Le Premier ministre qui a aussi expliqué qu'il faudra demander un effort supplémentaire aux contribuables. On va y venir. Je vous propose d'écouter ce que disait Guillaume Pépi dimanche. C'était au grand jury d'RTL qui en avait appelé à la responsabilité des cheminots à propos de cette menace d'une grève qui pourrait se produire tout l'été.
Il n'y aura pas de grève cet été. Vous parce que les cheminots sont des gens responsables. Vous savez, quand une loi est votée, aujourd'hui elle est votée à l'Assemblée nationale, elle va être votée au Sénat. Ça veut dire que le peuple français a parlé. Et les cheminots, ils sont légitimistes. Donc je suis certain que, en faisant de la négociation, de la concertation...
C'est un vœu pieux, eux, les cheminots.
Non, c'est pas un vœu pieux, c'est une conviction. Je suis depuis 10 ans dans l'entreprise. Je suis convaincu que les cheminots sont des gens responsables.
Olga Givernet, négociation en panne à la SNCF. Ça n'avance pas.
Oh bah, il y a quand même des ouvertures qui sont proposées par le Premier ministre de pouvoir les rencontrer et puis également des propositions notamment au niveau de la reprise de la dette qui était un des points aussi.
Oui, ce sont les contribuables qui sont invités à mettre la main au portefeuille. Bah, c'est la proposition.
De toute manière, si c'est l'État, forcément,
c'est
à un moment donné.
Rachid Temal.
Non, mais dans cette réforme annoncée, bon, d'abord, on ne comprend toujours pas le sens de cette réforme et les objectifs. Je ne vois pas dans cette réforme ce qui fait qu'on va améliorer le service public, on va maintenir les lignes dites secondaires et maintenir une entreprise avec un service public de qualité. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on touche au statut cheminot. Ça, c'est le premier point, donc toujours rien. Il n'y a jamais eu de concertation, tout le monde vous le dit. Et d'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, il faut que le Premier ministre rentre dans la danse. Sur la dette, rien non plus. Et à la fin, on nous annonce, le Président public, il y a quelques jours, on dit, c'était dimanche soir, aucun impôt supplémentaire, et puis aujourd'hui, on nous annonce qu'il y aura bien une contribution supplémentaire. Donc dans ce dossier-là, on ne comprend pas ni les objectifs, ni les arrêtés de ce dossier-là. Donc je pense que maintenant, il faut que tout cela cesse, il faut que le gouvernement reprenne sa copie, et entame une véritable négociation avec les organisations syndicales, avec les entreprises, et même avec les usagers, les collectivités locales.
Ça sent le détricotage au Sénat, tout ça. Hein.
Et aussi les collectivités locales, qui derrière ça payent un service, notamment sur les régions. Qu'enfin, on parle sérieusement de l'avenir du transport de personnes et du fret.
Sébastien Chenu, pour le Front National, vous partagez le point de vue de votre collègue socialiste sénateur?
Avant toute chose, je dois dire à ma collègue En Marche que c'est un peu court de dire finalement le contribuable le paiera. Paiera quoi? Paiera quoi? Oui, au bout du compte, c'est toujours le contribuable qui paye. On est d'accord. Enfin, c'est un peu court de dire ça. Moi, je vois d'abord que ce gouvernement, il a un zéro pointé en termes de négociations sociales. Moi, je comprends que les cheminots n'aient pas du tout envie de négocier avec Madame Borne. Elle était directrice de la stratégie de la SNCF. Aujourd'hui, elle est en train de liquider l'outil SNCF. Il y a un cynisme incroyable de ce côté-là. Donc, je comprends que les cheminots demandent à négocier avec le Premier ministre. C'est le minimum. Mais pour faire quoi? On va renflouer à travers la reprise de dette, ce qui est normal que l'État reprenne la dette. Mais on va renflouer cette entreprise pour mieux la liquider demain. C'est ça, en fait. C'est le même coup qu'avec les autres.
Quoi, vous dites pas touche,
c'est-à-dire
pas touche
que
à la SNCF,
l'État renfloue touche, l'entreprise et ensuite il la liquide. Ouais. Bah écoutez, sur ça, on peut quand même pas être d'accord.
Christophe Madrol.
On s'y perd.
Voilà.
On s'y perd. Depuis 15 jours, les organisations syndicales demandent à discuter avec Édouard Philippe. Édouard Philippe leur envoie un courrier aujourd'hui. Il accepte une rencontre avec les organisations syndicales.
Que de temps
donc,
perdu.
Donc, 15 jours de perdu. Les organisations syndicales le disent, et Berger en premier, on ne peut plus discuter avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Il faut se rappeler les sorties d'Elisabeth Borne. C'était purement...
Donc ce sont les syndicats qui la zappent de fait.
Oui, mais attendez, Elisabeth Borne a quand même pris des positions qui étaient quand même bloc contre bloc. Et elle est quand même aussi responsable de la situation à la SNCF aujourd'hui. Comme Guillaume Pépi. Quand Guillaume Pépi nous dit qu'il n'y aura pas de grève en été, mais c'est le patron d'une entreprise, la SNCF, ce sont les syndicats qui décideront si oui ou non ils ont trouvé des accords pour ne pas pour finir la grève. Donc faut faire attention, il y a beaucoup de paroles qui sont dites et effectivement Emmanuel Macron a dit dimanche soir que la dette, les contribuables ne paieront pas la dette puisque ça coûtera zéro. Aujourd'hui, on nous menace de payer la dette. Il y a quand même des choses que les Français ne comprennent pas sur la logique de ce gouvernement.
Olga Givernet, il reste peu de temps avant la pause, c'est donc le Premier ministre qui reprend la main sur ce dossier.
Non, je pense qu'il intervient aujourd'hui. Merci. Après, on est dans un processus de négociation, donc il y a forcément des stratégies dans la négociation avec les points et des avancées qui se font.
Il fait tout
qui se ne font pas. C'était la ministre qui s'en est chargée. Je tiens à rappeler que par rapport au programme qui avait été défendu au moment de l'élection, on était sur une harmonisation quand même.
Ça n'a pas marché si elle passait la balle au Premier ministre.
Je peux finir. On était sur une harmonisation justement des régimes spéciaux. On était sur la volonté d'avoir un service public de qualité. Bien sûr que si. Si on a un service public de qualité, ça veut dire qu'il faut réformer la SNCF. C'est un engagement qui est pris et nous l'amènerons au bout parce que quand nous rencontrons les gens, on nous dit tenez bon.
Mais ça, c'est un élément de langage, madame la députée. C'est pas une réponse de fond. On vous demande quelles sont les perspectives de cette réforme. On vous demande pas d'éléments de langage.
21h28 sur France Info, la météo, le rappel de l'info. On se retrouve dans un petit moment dans Tout est politique sur France Info.
Choisir les cartouches HP Authentique vous apporte bien plus qu'une qualité exceptionnelle. Depuis 10 ans, HP produit des cartouches en ajoutant du plastique recyclé. En 2016, 3 milliards de bouteilles en plastique ont été réutilisées et aujourd'hui, 80% des cartouches HP Authentique comprennent des matériaux recyclés. Réinventez votre impact avec HP sur hp.com/fr/je-recycle.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
La météo avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Plus de nuages demain, une perturbation arrive par la Manche cette nuit. On la retrouvera des Pays de la Loire vers la région parisienne et les Ardennes le matin avec un peu de pluie. L'après-midi, elle aura gagné le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le centre, la Lorraine. On aura de belles éclaircies près de la Manche le matin, jusqu'à la Vendée, au bassin parisien et à la frontière belge l'après-midi. Le vent, lui, sera sensible près des côtes avec une averse possible. Du sud-ouest jusqu'au nord-est, là, ce sera partagé, des nuages, parfois un peu de brouillard le matin, des éclaircies un petit peu plus belles de la côte aquitaine vers le Jura et l'Alsace. On aura quelques averses orageuses sur les Pyrénées orientales l'après-midi, une averse aussi sur l'est du massif central. De la Méditerranée aux Alpes, vous serez plus gâtés avec du soleil. Il fera plus doux le matin, 8 à 15 degrés, mais l'après-midi, plus frais, 14 degrés à Cherbourg, 18 à Paris, Tours, Bordeaux, 23 à Strasbourg, 25 à Lyon et 27 degrés à Nîmes.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335 euros en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est tout juste 21h30. Toute l'info avec vous, Frédéric Benyada.
Édouard Philippe Lage-Dulez, dans le conflit des cheminots, 10e jour de grève, le Premier ministre invite les syndicats de cheminots à le rencontrer le 7 mai prochain, ce qu'il avait toujours refusé jusqu'à présent, laissant le soin à Elisabeth Borne, la ministre des Transports, de négocier. Édouard Philippe a écrit aux syndicats, il confirme la reprise progressive de la dette de la SNCF par l'État à partir du 1er janvier 2020, ce qui demandera un effort supplémentaire des contribuables, mais pas de précision, impôts ou augmentation du prix des billets. Rappelons que la dette de la SNCF avoisine les 47 milliards d'euros, aujourd'hui encore 18%. Les salariés étaient en grève. Les syndicats parlent ce soir d'un recul du gouvernement dû à la mobilisation des cheminots. Après les marques d'amitié, les sujets qui fâchent, Donald Trump a reçu ce soir Emmanuel Macron dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Les deux chefs d'État ont affiché des divergences profondes sur les questions d'environnement, sur la Syrie ou le nucléaire iranien. Emmanuel Macron et Donald Trump ont appelé à un nouvel accord pour contenir les ambitions de l'Iran. Un peu plus tôt, le président américain avait qualifié le texte actuel de désastre. Donald Trump, qui s'est également exprimé sur la Corée du Nord et donc sur l'Iran.
Comme vous le savez, je vais bientôt rencontrer Kim Jong-un afin d'entrevoir un avenir fondé sur la paix, l'harmonie et la sécurité dans toute la péninsule coréenne. Et en fait, pour le monde entier. Cependant, dans le cadre de cette quête pour la paix, nous ne répéterons pas les erreurs du passé. La campagne de pression maximale durera jusqu'à ce que la négociation ait lieu. La France et les États-Unis conviennent en outre que l'Iran ne peut pas être autorisé à développer une arme nucléaire et que le régime doit cesser de soutenir le terrorisme. Partout, peu importe où vous vous rendez, au Moyen-Orient, vous voyez les traces de l'Iran derrière les problèmes.
Vincent Bolloré placé en garde à vue aujourd'hui. L'homme d'affaires est entendu dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre pour des soupçons de corruption. L'enquête porte sur les conditions d'attribution au groupe Bolloré des ports de Conakry en Guinée et de Lomé au Togo en 2010. Deux autres cadres du groupe ont également été entendus par la police. À la Bourse de Paris, l'action du groupe a chuté de près de 6%. Amorce de retour au calme, elles avaient été annoncées peu après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Trois mois après, l'État a officialisé aujourd'hui les régularisations de quatre agriculteurs historiques à travers la signature de baux précaires. Deux mois après sa relaxe, Jawad Ben Daoud, de nouveau en garde à vue. Le logeur des terroristes du 13 novembre est en garde à vue pour des menaces de mort sur son ex-compagne. L'hommage à une légende du foot, Henri Michel est décédé à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer, pilier du FC Nantes, capitaine de l'équipe de France à la fin des années 70, avant d'en devenir le sélectionneur de 84 à 88.
21h, 22h, tout est politique, Jean-François Aquili.
La deuxième partie de Tout est politique sur France Info avec nos invités Olga Givernet, députée, je ris parce que vous êtes seule contre tous, La République En Marche de l'Ain, et vous êtes conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Sébastien ça. Chenu, député du
seul
Nord.
Seul contre tous aussi.
Député du Nord et porte-parole du Front National. Également Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise, vice-président du groupe socialiste au Sénat. Et Christophe Madrol, secrétaire général de l'UDE, candidat à l'élection municipale de Marseille. Alors, il n'y aura finalement pas de nouvelle expulsion, pas pour l'instant du moins à Notre-Dame-des-Landes, avant l'examen des dossiers qui concernent la fameuse zone à défendre, la ZAD. 28 projets agricoles déposés en préfecture de Loire-Atlantique. Cela concerne à peu près 270 hectares. Ils vont être, les dossiers, examinés cette semaine pour voir leur viabilité. Une réunion est prévue ce mercredi à Matignon avec Édouard Philippe, décidément, ce qu'a confirmé la préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein, lors d'une nouvelle conférence de presse.
Il y a demain une réunion présidée par le Premier ministre. Le Premier ministre a réaffirmé, le gouvernement a réaffirmé, que des gens ne pouvaient pas rester dans des situations d'illégalité. Ceux qui ont déposé des projets montrent qu'ils veulent rentrer dans la légalité. Encore une fois, il y avait heureusement des agriculteurs pour qui il n'y avait pas de problème, et moi je suis très heureuse de signer aujourd'hui avec eux. Les autres ont témoigné de leur envie d'entrer dans la légalité, leur souhait d'entrer dans la légalité. Il y en a qui n'ont pas témoigné de ce souhait et qui l'expriment.
Ouais, Christophe Madrol, vous êtes un peu l'écologiste de l'étape. Vous saluez cet apaisement à Notre-Dame-des-Landes?
Bien sûr, je le dis depuis maintenant plusieurs mois avec François-Michel Lambert, Jean-Luc Benamias. La situation où s'est mis le gouvernement est folle. Nous connaissons les zadistes, nous avons été plusieurs fois dans les Landes, j'y suis allé moi-même, il y a des gens qui veulent vivre et rester sur cet espace. Donc le gouvernement a proposé des projets individuels, il y a des gens qui ont une autre vision de projet collectif et ils voulaient poser des projets collectifs. Moi je salue l'avancée des gens qui ont proposé ces projets et je souhaite qu'Édouard Philippe valide l'ensemble des projets. Il faut à un moment donné revenir à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est arrêter la crise. Parce que tout le monde est motivé. Nous avons vu 2500 gendarmes faire leur travail sur Notre-Dame-des-Landes et nous avons vu
travail
en face.
Travail pas simple, hein, il faut le rappeler.
Bien sûr. Mais c'est normal que l'État réagisse. Mais de l'autre côté, il faut qu'Édouard Philippe valide tous les projets. Il faut sortir par le haut de cette crise. Nous l'avons vécu à Paluel, à Plogoff, au Larzac. L'État français sait faire, faisons-le.
Sébastien Chenu, force est resté à la loi, selon vous ?
Non, pas vraiment, je trouve ça hallucinant, pour être très honnête. Finalement, il y a quelques chevelus qui ont tenu tête aux gendarmes.
Ne soyez pas comme ça, Sébastien,
ce sont des caricatures de gens qui ont occupé illégalement... Mais reprenons les choses, qui ont occupé illégalement des terrains qui appartenaient à d'autres personnes et qui aujourd'hui ont fait céder l'État. L'État se met à table pour négocier avec eux et ces gens-là vont pouvoir devenir agriculteurs. Alors sans déclaration à la Chambre d'agriculture, sans formation, sans fiscalité. Ne sont pas les protocoles que lorsqu'on veut devenir agriculteur, on
mais
doit
vous
remplir.
Mais vous ne connaissez rien, on ne devient pas agriculteur
comme ça par le claquement de doigts dans notre pays.
Il y a un certain nombre de règles.
Ces gens-là sont entrés illégalement sur ces terrains-là.
mais ils sont agriculteurs.
Aujourd'hui, ils ont fait plier l'État. Et aujourd'hui, l'État leur dit merci. Et bientôt, l'État va leur filer un peu de fric.
Messieurs, vous n'êtes manifestement pas tout à fait d'accord, si je puis dire.
Bien merci.
On va arbitrer cela avec vous, Rachid Temal. C'était une bonne décision de lever un peu le pied sur l'opération des gendarmeries.
Il y a deux questions. La première, c'est quand l'État souhaite négocier, il sait le faire. Dans d'autres cas, il envoie parfois les CRS ou parfois il dit « je ne bougerai pas ». C'est, il faut le noter. Moi, je souhaite que tout ça puisse s'apaiser et qu'il faut effectivement que ces projets-là soient viables et qu'ils rentrent dans le droit commun. Puis il y a une deuxième question qu'on oublie un peu vite. C'est la capacité aéroportuaire de l'ouest de la France, qui est l'absente aujourd'hui, on n'en parle plus. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait cet aéroport-là. Et on prévoit de
d'étendre
celui de Nantes qui pose des problèmes. Et aux habitants, et même à la faune et flore, parce qu'on sait très bien qu'il y a des enjeux. Donc moi, j'aimerais bien que cette question-là, tout aussi importante que l'avenir agricole de l'Automne des Landes, soit également à l'ordre du jour. Parce qu'il y a beaucoup de populations, il y a un tissu économique artisanal qui attend également
cet aéroport. Vous étiez favorable au projet d'aéroport, hein, manifestement.
Ah, vous savez, c'est un projet, je crois, qu'il y a d'il y a très longtemps, oui. Validé à plusieurs reprises. Et donc, moi, j'ai entendu les arguments des uns et des autres. Et puis là, tout d'un coup, le président dit, bah voilà, hop, je change, on supprime Notre-Dame des Landes et on va élargir, augmenter celui de Nantes. Je dis maintenant, bah faisons-le, mais dans les deux.
Olga Givernet, vous êtes une élue de territoire, hein. Que répondez-vous à ce que dit...
Nous aussi, nous sommes élus de territoire, bien sûr. Le Val-d'Oise, c'est également un territoire.
Mais oui, tout est territoire.
Non, je remercie M. Temal d'avoir rappelé l'historique du fait d'avoir un aéroport et puis qui a finalement la décision a été annulée. Et puis, on était sur un processus de finalisation. Finalement, la décision annulée, il ne devrait plus y avoir de contestation. Aujourd'hui, il y a une contestation qui perdure. Donc, je pense qu'on peut s'adapter au nouveau contexte qui est là, avec des revendications. Et je pense que c'est vraiment une prise de responsabilité.
On
s'adapte à la population.
Hein.
On s'adapte à la population.
Vous avez les adaptations sélectives.
Et en négociation. Aujourd'hui, on a identifié qu'il y avait une responsabilisation de la part des occupants qui souhaitent pouvoir avancer et puis avoir
un
projet.
C'est une question comme ça au doigt mouillé.
Je n'ai pas d'expérience sur le sujet. C'est bien la première fois. Je pense qu'il faut trouver une solution rapidement pour pouvoir légaliser l'occupation et puis avoir finalement relancé sur une dynamique positive. Aujourd'hui, on est en train de s'ancrer sur quelque chose qui est très négatif, donc je pense que ça vaut le coup de retrouver.
Juste une question importante. Vous m'ouvrez la parole tout à l'heure.
Quand vous dites effectivement quelque chose de positif,
j'aimerais comprendre, quand vous parlez de quelque chose de positif, qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, si c'était négatif, c'était la partie conflit. La partie positive, c'est on a laissé trop longtemps des personnes s'installer dans une situation et finalement c'est devenu leur vie. Hein. Si je veux faire le parallèle avec l'immigration, c'est comme laisser des personnes sans statut pendant trois ans. Donner un statut qui soit légal et qui leur permette aussi de construire.
Sébastien Chenu, en quelques secondes.
Sur quels critères le gouvernement s'adapte à la négociation? Vous êtes en train de dire, on s'est adapté, on a négocié avec, ce que j'appelle les chevelus, enfin les zadistes, mais en fait, vous ne le faites pas avec d'autres, avec les chevelus.
Donc
quels sont les critères sur lesquels
le
gouvernement. Ah bah oui, moi, j'ai pas beaucoup de considération pour les gens qui enfreignent la loi à ce niveau-là. Pour les zadistes, j'ai pas beaucoup de considération, je vous l'accorde.
Mais
sur
quels critères les
chevelus? Non, mais sur quels critères. Ah, pour les chevelus, c'est autre chose. Mais sur quels critères le gouvernement s'adapte-t-il? C'est intéressant de savoir. Pour les autres, ce sera intéressant de savoir.
Gardez la question en l'air. Il est 21h40 sur France Info. On va y répondre. On va prendre un petit peu de temps. On va y répondre juste après le rappel de l'info avec vous, Laurent Sénéchal.
Après une rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche, Emmanuel Macron accepte l'idée d'un nouvel accord avec l'Iran. Le président affirme ne pas changer de position. Il estime que l'accord sur le nucléaire peut être complété par des négociations sur le programme balistique iranien et sur la stabilité régionale. Vincent Bolloré, toujours en garde à vue, le milliardaire répond aux enquêteurs sur des soupçons de corruption en Afrique. Son entreprise est suspectée d'avoir aidé des hommes politiques à accéder au pouvoir en échange de la gestion de ports guinéens et togolais. La tempête fakir provoque la mort de deux personnes à La Réunion. Les pluies diluviennes ont entraîné une coulée de boue qui a piégé un couple dans son sommeil à l'étang Salé, dans le sud-ouest du département. 42 000 foyers étaient encore privés d'électricité en début d'après-midi. Quelques dizaines de zadistes décident de miser sur la régularisation de leur situation à Notre-Dame-des-Landes. 41 dossiers individuels ont été déposés. Après l'abandon du projet d'aéroport, les occupants ont refusé de partir. Ils souhaitent continuer à gérer les terres collectivement, mais face aux opérations de gendarmerie, certains ont donc décidé de répondre à l'ultimatum lancé par la préfète. Elle salue leur geste fort. Demi-finale allée de la Ligue des champions de football, c'est la mi-temps entre Liverpool et l'AS Rome. Le club anglais mène 2-0 grâce à un doublé de Mohamed Salah. Demain, l'autre demi oppose le Bayern Munich au Real Madrid. Le match aller a lieu en Allemagne.
France Info.
21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Allez, de façon un petit peu rapide, si c'est possible, Olga Givernet, quels critères demandait à l'instant Sébastien Chenu qui vous a interpellé là-dessus?
Mais M. Chenu a fait la parallèle avec la SNCF et les cheminots qui sont en train de revendiquer également par rapport à ces personnes qui sont en occupation de terrain. J'aimerais rappeler qu'on a une volonté de service public et les usagers et l'ensemble de la population sont concernés par le bon fonctionnement de la SNCF et les cheminots en font partie. Aujourd'hui, sur la question de la ZAD, on est sur une occupation de terrain qui concerne les propriétaires ou le propriétaire des terrains. S'il y a une volonté de pouvoir trouver un accord entre les deux sans que ça ait d'impact sur le reste de la population, moi
les
je pense qu'on a besoin,
d'une
réintégration.
Quand, hein, la question, ouais, c'est jusqu'à quand cela va durer, hein, parce qu'au fond, on a dépassé un ultimatum et je crois que Christophe Madrol, vous n'avez pas plus d'idées là-dessus, de réponse. Ça doit durer longtemps, des semaines, des mois?
Par rapport à Notre-Dame-des-Landes?
Oui.
Édouard Philippe a les dossiers entre les mains. Il y a une négociation qui est ouverte avec la préfète. J'espère qu'on en finisse le plus rapidement possible.
Donc,
je l'ai dit, je souhaite qu'Édouard Philippe valide l'ensemble des projets individuels et ceux qui souhaitent proposer des projets collectifs soient entendus et qu'on sorte par le haut de ce dispositif.
Et Rachid Temal dit tout se passe désormais
à Matignon, en théorie. Mais par contre, j'ai toujours pas la réponse sur le deuxième volet. C'est-à-dire la capacité de développement économique de l'ouest de la France.
C'est un très bon sujet.
Et c'est un sujet très attendu. Donc moi, je pense que là, pour le coup, il y a besoin que l'État honore enfin et tienne sa parole jusqu'au bout. Et là, c'est, je pense, une demande importante pour toutes nos concitoyens qui sont dans l'ouest de la France. Je crois que c'est important. Et oui, effectivement, ce gouvernement-là négocie en fonction je ne sais quel critère, puisque les étudiants et la SNCF non, et là oui.
Je vais vous demander
c'est
votre
vraiment
avis.
Pas le même sujet,
je vais vous demander votre avis. On clôt le sujet d'ailleurs en question sur cette tribune.
Mais il faudra encore nous l'expliquer.
Ouais.
Je crois qu'à ce stade, nous sommes dans l'attente de comprendre quels sont les critères.
Si vous le permettez, je vais vous demander votre avis désormais sur cette tribune qui sème le trouble depuis sa publication dimanche. C'était dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Il s'agit du manifeste contre le nouvel antisémitisme rédigé par Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Quelques 250 signataires prestigieux, on va pas y revenir. Il faut dire les choses, c'est ce que nous a expliqué Joël Mergui, le président du consistoire israélite de France. Il était l'invité ce matin de Bruce Toussaint sur France Info.
Cette tribune, elle dit des vérités. Ça fait 10 ou 15 ans que je réclame que les musulmans se mobilisent aussi contre l'antisémitisme. Ils ont commencé à le faire. Tant qu'on ne dénoncera pas et tant qu'on ne dira pas d'où vient le mal, on passera à côté de la réalité. Je pense que, au contraire, tant qu'on est dans le déni et qu'on donne l'impression que l'islam n'est pas concerné par le nouvel antisémitisme et par l'islamisme radical et par le terrorisme, alors un certain nombre de personnes ne vont plus croire au message des imams.
Sébastien Chenu, vous avez lu le manifeste, vous validez cette démarche?
Ah, je l'aurais même volontiers signé. Moi, j'ai défilé et pas
au Front National,
il n'y
a pas d'antisémite.
Oui, mais moi, j'ai défilé. Si on veut faire la liste, dans tous les partis politiques, il y a eu des gens qui ont dérapé sur ces sujets-là.
Vous
dans tous
les
partis politiques,
de
il faut qu'ils soient sanctionnés. Évidemment.
Très bien.
Évidemment. Évidemment. Écoutez, c'est la moindre des choses. Moi, j'ai défilé, comme d'autres, je ne sais pas si mes collègues l'ont fait, mais c'était pas la première fois que je défilais contre l'antisémitisme.
Mais le Front National n'a jamais été clair.
Et nous avons défilé avec Marine Le Pen.
Monsieur Chenu.
Très clairement. Nous sommes très clairement. Et Marine Le Pen, je rappelle sa phrase, il y a quelques années, il y a des quartiers en France où il ne fait pas bon être juif, femme, gay. Eh bien, cette tribune ne dit pas autre chose. Oui, il y a dans notre pays certaines communautés radicalisées qui développe un antisémitisme et une violence et des actes antisémites. Je rappelle que 30% des actes racistes dans notre pays sont liés à l'antisémitisme, alors que la population de confession juive représente moins de 1% de la population. Donc il y a un vrai problème dans ce pays. Si c'est la fin du déni, tant mieux.
Rachid Temal, il faut mettre tous ces sujets sur la table, organiser une sorte de débat national. Il est nécessaire, selon vous ?
D'abord, on ne peut autour de la table, je crois, même si je suis assez surpris d'entendre maintenant le discours du Front National, mais tant mieux que vous...
Depuis longtemps ?
Oui, Jean-Marie Le Pen, on s'en souvient bien tous. Mais en tout cas, l'antisémitisme...
J'ai quand même des gens dans les Bouches-du-Rhône assez violents.
Monsieur Filoche, OPS.
Mais je vais vous répondre. Monsieur Filoche, je rappelle que je l'ai exclu.
Bah, comme Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front.
Non.
Allez-y, Rachid Temal.
Jean-Marie Le Pen,
Monsieur Chenu, est-ce qu'on peut vous répondre tranquillement? Vous allez voir, ça va se passer très bien.
Jean-Marie
Le Pen a tenu des propos racistes pendant de nombreuses années.
C'est pour ça qu'il était exclu.
Et avant d'autres propos, d'autres époques.
Pour cette raison-là, d'ailleurs.
Notamment dans une autre.
On va essayer d'entendre Rachid.
Nous, on sanctionne très vite, vous savez.
Mais Monsieur Chenu, mais non, vous l'avez pas sanctionné, il a été président d'autres partis pendant très longtemps. Est-ce qu'on peut terminer? Vous ne sentez pas agressé? Bon. Donc, quand on est de gauche, on combat l'antisémitisme. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Faut que ça se voit maintenant.
Mais excusez-moi, vous avez là du mal à accepter. Nous le faisons, vous avez dans vos rangs...
Je rappelle
que Monsieur Filoche a été exclu. Dans votre parti, vous avez été créé avec des anciens, des onotagistes, des pétinistes,
Monsieur Chenu. Quand vous en faites des questions personnes, vous allez dans le mur.
La question est politique. D'un courant de pensée qui vient du pétinisme.
Mais tout ça, c'est les années 80, vous n'y croyez même plus vous-même.
Vous êtes encore.
Et si l'on parle de la question, elle est politique.
C'est pas une question de personne,
c'est une question politique.
Mais écoutez,
Monsieur Chenu, écoutez.
Monsieur Chenu, écoutez.
Vous savez que nos auditeurs détestent que tout le monde parle en même temps.
Monsieur Chenu a du mal
à accepter les choses.
Mais il faut revenir, on est en 2018.
Non, mais on aimerait bien parler aussi.
Oui, mais parce que leur tour.
Monsieur Chenu nous laisse parler. Voilà, merci Monsieur Chenu.
Plaisir.
Je crois que vous avez un rapport à la démocratie particulier, mais ça vient de la famille politique. Donc il y a d'abord, il y a cette tribune là. Il y a d'ailleurs celle de Monsieur Ascolovitch ce matin.
Oui.
Et puis cet après-midi des imams dans Le Monde. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ces trois tribunes? C'est dire que effectivement il faut réellement combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et donc moi, je ne peux qu'être d'accord et m'associer à ce combat-là. Et toutes ces tribunes disent il faut le faire ensemble, sans stigmatiser qui que ce soit, une partie de notre communauté nationale ou une autre partie. Donc moi, j'en appelle maintenant à ce qu'effectivement, la lutte contre l'antisémitisme et globalement contre le racisme, mais aussi l'antisémitisme principalement, soit une cause nationale. J'y souscris.
Et donc, là, vous n'avez rien dit, d'accord. En fait.
Olga Givernet.
Monsieur Chenu.
Attendez. C'est un bon sentiment, mais qu'on partage tous.
Moi, je suis ravi d'entendre ça. Votre parti
arrêtez avec ça.
Là, je crois qu'on va y passer.
Il y a aussi d'ailleurs dans les signataires des gens qui ont développé dans notre pays un communautarisme. Je pense à Monsieur Lang, etc., avec des politiques communautaristes pendant des années, qui amènent à ces résultats-là. Il y a aussi des gens qui aujourd'hui,
je pense à Monsieur Bakker, les politiques socialistes, les quartiers à ce communautarisme.
Voilà, Monsieur Chenu. Le FN revient vite, finalement.
C'est la vie de notre pays. Vos politiques ont amené nos concitoyens à se communautariser, à se réfugier dans leur communauté.
Sébastien
le communautarisme Chenu, nourrit
Sébastien
l'antisémitisme.
Chenu. Sébastien Chenu, si vous pouvez...
Et le porte-parole de Monsieur Le Pen perd, manifestement.
Ah ben, à chaque fois que vous vous relancez entre vous, on y passe la soirée.
Sur le manifeste, ouais. je pense que toute initiative qui fait que nous pouvons prendre conscience de dérive, puisque si la dérive se fait, elle se fait lentement, et des fois on ne peut pas la prendre en compte. Il y a des lanceurs d'alerte, et celle-ci est importante pour pouvoir prendre conscience. Je salue le fait que la communication doit être de façon non violente pour être le plus inclusif possible. Le fait qu'il y ait un certain nombre de représentants et également de représentants d'autres religions qui adhèrent porte un message bien plus important et puissant que si c'était des communautés contre d'autres communautés. Donc je pense qu'il faut continuer cette discussion, comme on a pu l'entendre, de manière ouverte, poser les mots. Mais je rappelle, une communication non violente, c'est-à-dire avec des faits et un sentiment et de pouvoir trouver le meilleur compromis à l'issue.
Christophe Madrelle, en quelques secondes.
Moi, je salue l'initiative prise par Philippe Val, comme je salue l'initiative prise par les imams ce soir dans Le Monde. Oui, il y a un problème d'antisémitisme en France. Il y a un antisémitisme galopant dans l'ensemble de nos cités. Je le disais sur le plateau, il y a des quartiers dans la région parisienne où il n'y a plus de juifs qui sont scolarisés dans l'école publique. Donc, le fait qu'il y ait une réflexion dans la communauté musulmane, comme ça s'est passé au moment du consistoire sous Napoléon dans la communauté juive, et comme nous avons eu Vatican II par rapport aux catholiques. Donc, on est bien aujourd'hui en train de construire une histoire. Il n'y a pas à avoir un amalgame, il n'y a pas à pointer du doigt telle communauté ou telle communauté, mais il est important aujourd'hui que les musulmans puissent aussi avoir leur mot à dire, parce que ça regarde aussi les musulmans dans leur croyance.
C'est dit, 21h51 sur France Info. Le dernier appel de l'info avec vous, Laurent Sénéchal.
Emmanuel Macron accepte l'idée d'un nouvel accord avec l'Iran. Le président français termine à Washington la première visite d'État d'un dirigeant depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Il estime qu'il faut compléter l'accord sur le nucléaire iranien en lançant des négociations sur le programme balistique de Téhéran et sur la stabilité régionale. L'homme d'affaires Vincent Bolloré est toujours dans les locaux de l'Office anticorruption à Nanterre. Les policiers soupçonnent son entreprise d'avoir aidé des hommes politiques africains à accéder au pouvoir en échange de la gestion des ports en Guinée et au Togo. La Réunion pense ses plaies après le passage violent de la tempête tropicale Fakir. Deux personnes sont mortes. Un couple pris au piège d'une coulée de boue dans son sommeil à l'étang Salé dans le sud-ouest du département. 42 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en début d'après-midi. Pour Édouard Philippe, le Premier ministre, une reprise partielle de la dette de la SNCF entraînera un effort des contribuables. Les syndicats décident de boycotter plusieurs réunions prévues avec la ministre Elisabeth Borne. En revanche, ils iront à Matignon le 7 mai prochain. Ils ont été invités à des discussions bilatérales par Édouard Philippe. C'est une victoire obtenue grâce à la grève, estiment les syndicats. Le rugbyman sud-africain Brian Abana prend sa retraite, champion du monde en 2007, mais aussi double champion d'Europe et champion de France avec Toulon. Il est arrivé au RCT en 2013. Le club lui rendra hommage samedi en marge de la rencontre face à Castres.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Ça sent le dérapage. On va se détendre un petit peu pour refermer ce tout est politique sur France Info.
Il y a beaucoup dérapé.
Non, mais attendez, monsieur Chenu, attendez.
Je peux dire un mot,
C'est mon jour de bonté, Sébastien Chenu, vous pouvez dire un mot.
La communauté musulmane a encore du boulot et du chemin à faire. Dalil Boubekir condamne cette tribune. Donc, vous voyez, on peut se gargariser de bons sentiments. La communauté musulmane, si tant est qu'on puisse parler de communauté, moi je dirais même nos compatriotes de confession musulmane, pour être plus précis, ont du chemin à faire. Notre collègue Givernet nous dit qu'il faut une communication inclusive, je ne sais pas trop quoi, bienveillante. Bon, c'est beau comme du Macron, mais les actes forts derrière, c'est quoi ? Les actes forts, quelle est la politique pour laquelle vous avez été élu ? C'est quoi vos actes pour lutter contre l'antisémitisme ? Fermer les mosquées salafistes, dissoudre les frères musulmans, ça c'est des actes forts. C'est ce que je veux dire, la communication bienveillante, inclusive, tout ça, c'est sympathique, mais ça ne résoudra rien. Or, il y a des gens qui sont victimes aujourd'hui.
Olga Givernet, c'est quand même une interpellation un peu sévère de la part de votre collègue du Front National à l'Assemblée Nationale. Des actes forts, qu'est-ce que ça signifie selon vous ? Vous contestez ce que dit Sébastien Chenu ?
Moi, je pense qu'il faut d'abord poser les mots et puis rentrer dans une discussion.
Des années.
Oui, on fait du Macron, hein, comme on dit. Non, de pouvoir travailler dans l'intelligence collective, c'est ce que nous avons fait au début aussi. Et c'est-à-dire que tout le monde met sur la table ses sentiments et puis après de trouver dans la concertation des nouvelles façons de faire. Aujourd'hui, on a besoin de se réinventer.
Non, madame, on ne fait pas de la politique.
Comment est-ce que vous croyez qu'on a réussi à avoir autant de citoyens qui ont rallié la République en marche ? C'est parce qu'ils ont été impliqués.
Mais bien sûr.
Attendez, Sébastien Chenu.
C'est impossible d'avoir un débat avec vous.
Christophe Madron,
non, non, attendez.
Christophe Madron,
non, mais attendez. On peut tous répondre.
Alors,
vous monopolisez le micro depuis maintenant 5 minutes.
Vous
laissez parler Madame Olga Duvernet et après on pourra parler
Christophe Madron qui vient de Marseille.
Je vais juste finir. Les mots que vous ne compreniez pas, donc dans l'inclusivité, avec la communication non violente, tout ça, c'est des techniques un peu modernes qui
valent
aussi de pouvoir faire dans la politique.
Moi, je peux vous dire, monsieur Chenu, vivant à Marseille, je vois ce que font les services de renseignement et de police. On a fermé des mosquées salafistes à Marseille. On en a fermé deux dans d'autres villes de France.
Très bien.
Je vois aujourd'hui le travail qui est fait par les services de police.
Bien
évidemment, on ne va pas, avec un coup de baguette magique, régler le problème immédiatement. Parce que, à part, effectivement, selon vos propres propos ou les propos de Madame Le Pen, de mettre la moitié des musulmans hors de France...
Non, mais c'est ridicule. Non, mais attendez, vous l'avez dit.
Non, je ne dérape pas. pas, monsieur Chenu. Quelle solution il y a aujourd'hui, c'est que moi j'ai confiance.
Comme vous, pas tous en même temps.
Gros comme moi. C'est pas la sardine qui bouge le bord de Marseille.
Monsieur Chenu, je vous parle pas.
Gros comme. On parlait de chevelu tout à l'heure.
Non mais gros comme moi, qu'est-ce qu'il dit? Il dérape complètement ce garçon.
Allez. Ça dérape,
Vous, vous dites n'importe
quoi. Mais monsieur Chenu a quelques... Quand on lui parle...
Rachid Temal.
Sur cela, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il y a des mesures à prendre nécessaires, à la fois sur des questions de sécurité, jusqu'à des mesures éducatives, notamment sur les préjugés. Tout ce travail-là doit être fait maintenant. Donc il y a eu plusieurs tribunes. Je crois que maintenant, l'ensemble de la communauté nationale a conscience de la réalité... La représentation nationale, et dont on doit y travailler collectivement.
Vous pensez qu'il y a eu une sorte de d'absence, ou voire de chape de plomb sur ces questions-là, jadis, sans accuser jadis, personne?
L'antisémitisme, il y a une histoire dans notre pays. C'est pour ça que l'antisémitisme, qui est basé sur des préjugés, c'est une longue histoire. Et donc, je pense qu'il faut la combattre en permanence. En permanence. Aujourd'hui, plus que jamais. Et donc, c'est un travail qui doit être collectif, et je l'ai dit, et il y a des mesures sur la question de prévention, sur la question éducative, jusqu'à des mesures de répression. Et donc, c'est l'ensemble de ces mesures qui doivent être prises. Et donc, moi, j'en appelle maintenant le gouvernement à travailler avec l'ensemble des forces politiques, l'ensemble des cultes de notre pays, des grandes associations qui travaillent sur ces questions-là, pour qu'il y ait un vrai plan de lutte contre l'antisémitisme dans notre pays.
Sans stigmatiser les populations musulmanes, il faut le rappeler quand même au passage.
Parce mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Il y a M. Chenu qui lui fait.
Je note que M. Boubacar n'est pas d'accord avec tout ça.
Le débat est intéressant parce qu'on est passé du sujet.
Il faut signer ouvertement aujourd'hui une tribune. Attendez, M. Chenu, je peux en placer une?
C'est normal.
30 imams aujourd'hui signent une tribune, et d'ailleurs tous nos auditeurs.
Au-delà des 30 imams,
il y a des associations musulmanes aujourd'hui qui accompagnent cette démarche, et c'est très bien.
Moi, je trouve ça très positif, parce qu'on était sur une discussion sur la laïcité. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a dépassé ça, c'est-à-dire la laïcité, c'est quand même de pouvoir accepter l'ensemble des personnes dans leur croyance, et derrière, de pouvoir en parler.
Allez, merci Olga Giverney, merci à vous Sébastien Chenu, merci Rachid Temal, et merci Christophe Madrol, candidat à la mairie de Marseille, ça alors. Je vous dis pour ma part à demain pour une toute nouvelle édition de Tout est politique sur France Info. Merci.